Radio Okapi. Journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Faire appliquer les dispositions du code minier pour imposer aux entreprises minières de reverser leurs redevances aux provinces, c'est à cela qu'est appelé le gouvernement congolais. Recommandation issue de l'atelier de Congo Peace Center, CPC, sur la conciliation de l'exploitation minière et du développement local durable dans les provinces du Maniema et du Tanganyika. La journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle, habituellement c'est le 28 mai, mais elle est célébrée à Bandundu le mardi 3 juin. Dans ce journal, le compte-rendu de Irène Mbomaluzolo. Vous aurez aussi droit comme d'habitude à l'invité du jour vers la fin du journal. Pour ce matin, il s'agit de Chivis Chivwadi, secrétaire général de l'ONG Journaliste en danger. Bonjour à tous. Le gouvernement congolais est appelé à faire appliquer les dispositions qui sont dans le code minier pour imposer aux entreprises minières de reverser notamment les redevances minières aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Cet appel a été lancé hier à Kinshasa à la clôture de l'atelier organisé par Congo Peace Center, CPC, sur la conciliation de l'exploitation minière et le développement local durable dans les provinces du Maniema et du Tanganyika. Occasion également pour Blaise Baïs Ebolamba, secrétaire permanent du CPC, de recommander aux autorités politico-administratives du pays d'amplifier la lutte contre les groupes armés pour créer des alternatives en faveur de jeunes qui travaillent dans le secteur minier. On écoute Blaise Baïs Ebolamba dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les deux journées ici étaient consacrées à la restitution de ce qui était facilité. C'était une consultation des communautés affectées par l'exploitation minière dans les provinces de Tanganyika et de Maniema. Ce sont des provinces potentiellement riches en minerais, de toutes sortes. On a constaté aussi qu'il n'y a pas assez d'entreprises industrielles. On a constaté aussi que ces quelques entreprises qui se trouvent là-bas ne payent pas les redevances. Ainsi, les populations sont dans la pauvreté, dans la misère la plus exécrable. La situation est terriblement noire parce que il n'y a pas de route qui relie ces territoires au chef-lieu des provinces. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Il n'y a pas assez d'écoles. Il n'y a pas assez de maternités ni de centres de santé. Justement parce que la seule ressource minière qui est en train d'être tirée des sols de ces contrées n'est pas redistribuée aux communautés environnantes. Et nous avons donc demandé que l'on crée, que ce soit même les entreprises minières ou la société congolaise, créer des alternatives à l'activité minière. Ce sont des activités, par exemple, de l'agriculture.
On participait à ces assises de deux jours organisées en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM, les délégués des ministères des Mines, de l'Intérieur, ainsi que le haut représentant du chef de l'État au processus de Luanda et de Nairobi, sans oublier les représentants des populations du Maniema et du Tanganyika. Toujours à Kinshasa, le ministre des Finances est appelé à travailler avec le Sénat pour rendre opérationnelle la caisse de péréquation dans un bref délai en vue de permettre aux provinces de fonctionner effectivement. Ce qui ressort de la plénière d'hier mercredi au Sénat consacrée à l'examen de 5 projets de loi. Il s'agit notamment des projets de loi portant ratification des ordonnances lois promulguées par le chef de l'État pendant les vacances parlementaires. Parmi ces lois, il y a celle portant ratification des accords de prêt estimés à 43,5 millions de dollars. Michel Kifindangoy.
Après un débat sur l'examen des 5 projets de loi portant ratification des ordonnances loi, le Sénat s'épanche également dans le cadre du contrôle parlementaire sur la question orale avec débat de Christophe Lutundula au ministre des Finances Doudou Fouamba sur la caisse des péréquations. S'appuyant sur l'article 181 de la Constitution, l'auteur de la question orale veut connaître le volume des fonds versés au trésor public à cette caisse durant les exercices 2024 et 2025 et les différents projets auxquels ils ont été alloués. En effet, chaque année, des crédits sont prévus dans le budget de l'exercice, soit 10% du budget, pour alimenter cette caisse qui, selon les sénateurs, pourraient être assimilés à des détournements massifs de fonds. Dans ses éléments de réponse, le ministre des Finances souligne que la caisse de péréquation n'a jamais été financée depuis sa création, mais sera rendue opérationnelle après un atelier de réflexion prévu pour juillet prochain. Doudou Fouamba s'est dit prêt à travailler avec le Sénat pour être la première législature depuis 2006 à décaisser un premier fonds en faveur de la caisse de péréquation.
La Dynamique sociale pour le développement et la paix, DSDP, plateforme de la société civile, appelle à un dialogue immédiat entre le président de la République et l'opposant politique Martin Fayulu, dont elle salue l'engagement pour la paix en RDC. Dans une déclaration faite hier à Kinshasa, le coordonnateur national de la DSDP et avocat au barreau de Kinshasa Gombe pense que cette rencontre très attendue pourra déboucher sur la formation d'un gouvernement d'union nationale et résorber la question de sécurité dans sa profondeur. Ramazani Chabani est au micro de Jeff Ngoy.
Il y a un besoin urgent d'un dialogue inclusif afin de résoudre tous les problèmes de manière pacifique. Mais nous estimons en même temps que le fait pour le président Martin Fayulu de rencontrer le président de la République pour parler des problèmes de fond. Ainsi, nous estimons si de ce dialogue-là débouchera un gouvernement d'union nationale, au moins avec le camp Fayulu et les autres qui pourraient rejoindre, il y aura formation des deux blocs. Et ça sera plus facile de résoudre les problèmes en deux blocs qu'actuellement où nous sommes confrontés, nous les artisans de la paix, nous qui sommes impliqués dans le processus. Et ça sera plus facile de résoudre le problème quand c'est deux blocs plutôt que maintenant où il y a composition des blocs multiples. Nous soulignons un fait, il y a un besoin très urgent d'une paix durable. Il faut donc éviter des mesures provisoires, il faut aussi éviter de renvoyer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain.
La journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle est célébrée le 28 mai. Mais à Bandundu-Ville, dans la province de Kwilu, elle a été commémorée le mardi 3 juin. À cette occasion, le représentant du gouverneur de province, Floribert Nkangete, a procédé au lancement des activités dans la province en présence des autorités politico-administratives, sécuritaires, des cadres de la DPS Kwilu et des adolescentes. Organisée par le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA, cette activité consiste notamment en la sensibilisation des uns et des autres sur les idées négatives concernant la menstruation, a indiqué son coordonnateur Stone Diadia, Irène Bomaluzolo.
C'est à l'esplanade du complexe scolaire Maudit Souabandounduville que cette journée internationale de la gestion de l'hygiène menstruelle commémorée le 28 mai de chaque année a été célébrée mardi 3 juin 2025 dans la province du Kwilu. Plusieurs élèves adolescentes venues des différentes écoles de la ville ont pris part à cette cérémonie organisée par le PASEA avec l'appui financier de la Banque mondiale. À l'occasion, ces dernières ont fait ce plaidoyer.
Nous les adolescents de la province du Kwilu, demandons aux organisations des Nations Unies, au gouvernement provincial, à nous donner d'une façon permanente les serviettes hygiéniques, à améliorer les infrastructures sanitaires dans nos écoles, brisons les silences autour des règles.
Prenant la parole, Dr. Emérance Nyoka, chef de division provinciale de la santé du Kwilu intérimaire, s'est adressé à ses adolescentes en ces termes.
Chères jeunes filles, avoir des règles doit être considéré comme un phénomène naturel, normal pour toute femme. Cela prouve qu'on est en bonne santé. Il faut les gérer hygiéniquement, c'est-à-dire de manière propre, sinon cette période peut être un moment opportun de vos infections.
Il s'est de signaler que des serviettes hygiéniques ont été distribuées aux ados par les PASEA. Irène Mboma, Bandundu-Ville, Radio Okapi.
À Butembo, au Nord Kivu, des déplacés de guerre encadrés par l'ONG Intégration sociale pour la promotion des nécessités, ISPRON, ont été sensibilisés le mardi sur les violences basées sur le genre. La session, tenue dans la salle Benoît XVI de la cathédrale, a été animée par Kavira Mouloulou-Mari, une déplacée venue de Kikuvo, formée par l'organisation locale Solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant. Dans son exposé, elle a rappelé les 6 formes de violences basées sur le genre, à savoir le viol, les dénis des ressources, la violence sexuelle, l'agression physique, la violence psychologique et le mariage forcé. Elle a particulièrement insisté sur cette dernière pratique qu'elle considère comme l'une des causes majeures de l'échec de nombreux foyers. Les participantes ont apprécié la formation et promettent d'en appliquer les enseignements. Province du Maniema, la transition du système PADEM, graduat licence, au système LMD, licence master doctorat, c'est le thème au centre d'une conférence débat organisée par l'Université de Kindu le mardi 3 juin. Pour les organisateurs, cette rencontre était une façon de sensibiliser le public sur cette initiative de l'Université de Kindu sur le lancement du programme passerelle de master 2024-2025. L'orateur du jour a présenté aux participants une nouvelle opportunité pour les licenciés du PADEM d'obtenir le master et d'accéder au cycle de doctorat. La durée est seulement d'une année académique. Florence Kizalunga.
Pour le secrétaire général académique de l'Université de Kindu, la passerelle des masters a pour objectif d'aider plusieurs diplômés du système PADEM qui éprouvent de difficultés pour intégrer le nouveau système LMD. Professeur Kabala Spartakis.
Pourquoi passerelle? Parce que le programme LMD est différent du programme PADEM. Raison pour laquelle ceux qui ont terminé dans le programme PADEM doivent développer de nouvelles compétences et doivent acquérir de nouvelles connaissances afin qu'ils soient équivalents de ceux qui obtiennent leur diplôme de master. Pour tout dire, c'est un programme qui consiste à faire arrimer les anciens diplômés du système PADEM au nouveau système LMD.
Les licenciés du système PADEM se frottent les mains. C'est le cas de Grâce Sefou.
Je me suis inscrit dans la filière du droit public parce qu'à un moment donné, nous qui avions terminé dans le système PADEM, on pensait qu'on était en quelque sorte un peu sacrifié. Et dès lors que les autorités du comité de gestion nous ont proposé cette opportunité du programme passerelle, nous sommes dit que c'était une occasion à ne pas rater, surtout que nous sommes munis de plusieurs ambitions de pouvoir atteindre la carrière professorale.
Sachez que 85 candidats ont déjà pris leur inscription. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À l'Institut du bâtiment et des travaux publics IBTP Butembo Nord Kivu, deux étudiants ont été exclus définitivement pour des faits graves d'indiscipline. Dans une décision datée du 2 juin, la direction générale de l'Institut reproche à l'un d'avoir fait boire de l'alcool de force à des nouvelles étudiantes et à l'autre d'avoir brutalisé un étudiant jusqu'à l'évanouissement. Ces sanctions s'inscrivent dans une série de mesures visant à restaurer la discipline au sein de l'établissement, déjà marquée par d'autres exclusions récentes pour falsification des documents et comportement indésirable. Les membres de la délégation syndicale du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FEPEF, ont déposé le mardi 3 juin au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire un mémorandum dans lequel ils plaident pour le retrait immédiat ou la modification des alinéas 305 et 306 de la section 27 de l'instruction académique numéro 026. L'un de ces alinéas, en l'occurrence le 305, contraint les établissements d'enseignement supérieur à verser les quotités destinées au FPF dans des comptes bancaires ouverts et gérés par le cabinet de la ministre de l'ESU. Les syndicalistes plaident également pour le reversement intégral des fonds indus mal logés dans des comptes non autorisés vers le compte statutaire du FPF. Le président de la délégation syndicale, Bilungi Salé, Gabriel, revient sur les grandes lignes de leurs revendications au micro de Grasson Vuezolo.
Nous exigeons ce qui suit. 1. Le retrait immédiat ou la modification conforme aux lois en vigueur des alinéas 305 et 306. 2. Le reversement intégral des fonds indûment logés dans des comptes non autorisés vers les comptes statutaires du FPF. 3. La diffusion urgente d'une note circulaire corrective adressé aux établissements d'enseignement supérieur universitaire afin de rétablir la légalité des circuits financiers. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l'état des droits, prôné par son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, et nous rappelons à Madame la Ministre que ce blocage porte atteinte à la mission du FPF, notamment celle de promouvoir l'éducation et de la formation ainsi que la gratuité de l'enseignement de base cheval de bataille du chef de l'État.
Actualité internationale.
L'Afrique doit augmenter sa production de vaccins pour combattre les maladies, a estimé hier le président angolais lors des discussions d'urgence portant sur une épidémie de choléra qui a fait plus de 700 morts cette année en Angola. Le président angolais, João Lourenço, également président de l'Union africaine, s'est exprimé lors d'une vidéoconférence avec d'autres dirigeants africains portant sur l'épidémie de choléra qui touche plusieurs pays. Plus de 90% des vaccins, médicaments, tests médicaux et autres fournitures sanitaires essentielles utilisées sur le continent africain sont importés selon un rapport du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.
l'invité.
Le secrétaire général de l'ONG, journaliste en danger et notre invité, Chivisso Chivwadi, s'exprime sur la décision annoncée mardi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC portant interdiction aux médias de relayer les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD et de Joseph Kabila. Il s'entretient avec Grace Hamzati.
Chivisso Chivwadi, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre réaction à cette décision du CESAC interdisant la diffusion des activités du PPRD et de son président ou de son autorité morale Joseph Kabila dans les médias?
D'abord, sur le plan de la forme, je constate que cette décision est signée par 5 personnes sur les 15 membres qui composent l'Assemblée plénière du CESAC en violation de leur propre règlement intérieur, parce que je pense que le bureau ne peut pas engager l'Assemblée plénière et même toute l'institution. Je rappelle, et tout le monde le sait, et depuis plusieurs mois, le CESAC traverse une profonde crise interne due au fait justement que M. Boussembe s'évertue à gérer cette institution d'appui à la démocratie comme un bien privé et au gré de ses propres intérêts politiques, en violant systématiquement les constitutions qui garantissent la liberté de la presse et la loi organique qui institue le CESAC comme une instance de régulation et non comme un outil de censure des médias. Cette dernière décision, qui est bien sûr décriée par tout le monde de bon sens, constitue à nos yeux un attentat contre la démocratie qui risque malheureusement d'apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'ils ont pris les armes pour combattre la tyrannie qui est en train de s'installer ici à Kinshasa. Et je pense qu'il est temps absolument qu'on puisse arrêter certaines sortes de folies et cette dérive qui est en train d'être faite par le CESAC. La liberté de la presse dans ce pays, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau d'un prince qui peut décider de la donner ou de le donner ou de le retirer quand il veut. Je crois que c'est un droit qui est garanti par la Constitution, qui est au-dessus de tous les autres textes. Et donc, je pense, une décision illégale et arbitraire ne peut ni être opposable, ni s'imposer à personne.
Et quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision dans la communauté?
Ben écoutez, j'ai dit tout à l'heure que la liberté de la presse, c'est un droit qui est reconnu, qui est garanti. Donc ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un caprice. Donc les journalistes et les médias qui sont appelés à faire leur travail doit absolument continuer à faire leur travail et considérer qu'une décision qui viole la loi, qui viole la Constitution, ne peut pas s'imposer, ne peut pas s'appliquer à eux. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a une sorte de levée de bouclier général, aussi bien dans le milieu de la presse et même le milieu de la société civile et de la politique, pour dénoncer effectivement cette dérive démocratique qui est en train de s'installer. Et je pense que ceux qui croient faire plaisir peut-être au pouvoir sont en train de porter, de nuire à l'image même démocratique de notre pays. Et je pense que il faudrait que ceux qui en ont le pouvoir puissent effectivement arrêter cette dérive. Et je pense qu'il est temps de le faire.
Et qu'est-ce que vous conseillez aux médias? Qu'est-ce que vous recommandez aux médias? Quelle attitude les journalistes ou les médias doivent prendre face à cette décision?
Non, moi je n'ai pas de conseils ou de recommandations. Je crois que les journalistes doivent s'assumer. Les premiers défenseurs de la liberté de la presse, c'est les journalistes eux-mêmes. Donc c'est à eux de défendre leur métier. Ils savent quelles sont les limites de la loi qui garantit l'exercice de leur métier. Ils connaissent bien quelles sont les limites. C'est à eux d'assumer leurs responsabilités.
Chivisso Chivwadi, je vous remercie.
Nous vous remercions également, vous qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin. Un journal présenté par Noéla Luzito Kabambi et mis en onde par Mimi Kindou sous la coordination et la supervision de Jude Mystère Bilanda.